Alors, dans cette lettre, Bezrat Hashem, donc la lettre numéro 10 qu'on va démarrer tout de suite, l'Admour Hazaken va parler de l'importance de la Tzedaka. C'est une lettre très intéressante, parce que, en fait, ce qu'on va essayer de développer dans cette lettre, c'est comment, d'un côté, dans la Torah, on voit que la Torah nous donne une mesure pour tout. C'est-à-dire, par exemple, je veux savoir à partir de quand des tefilines sont cachères, la Torah te dit que des tefilines doivent avoir minimum telle et telle taille. On nous donne des critères très précis. Et d'un autre côté, on voit que la Torah nous laisse dépasser sur certaines choses. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est par rapport à la Tzedaka. On va voir comment, d'un côté, a priori, même pour ça, la Torah nous a donné une mesure. Ça, le titre que j'ai mis dans le SMS, si vous avez lu, vous avez reçu le SMS. C'est jusqu'où aller dans la Tzedaka. Ça veut dire qu'a priori, même sur ça, la Torah a donné des quantités, des quotas. Des quotas, comme dans tout. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on doit respecter ces quotas? Normalement, oui. Donc, au passage, pour répondre à cette question, on va devoir expliquer comment ça se fait que dans la Torah, il y a toujours des quotas et des limites et des restrictions et que c'est toujours limité. Une question qui se pose très très souvent, ça, surtout quand on parle avec des gens qui sont loin de la Torah, de ce que je vois en tout cas, une des questions qui revient le plus souvent, qu'est-ce qui dérange les gens? Ce qui les dérange, c'est cet aspect... rigoureux qu'il y a dans la Torah. Ça veut dire que, voilà, par exemple, le Shabbat, on nous dit, le Shabbat, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, rien, rien. D'accord ? On dirait que si tu vas prendre l'ascenseur, qu'est-ce qui va se passer ? Avec ça, tu appuies sur un bouton. C'est quelque chose qui dérange beaucoup. On va essayer d'expliquer dans cette lettre pourquoi.
Ça dérange celui qui n'a pas envie de faire.
Non.
C'est une excuse bidon pour
Non, c'est pas bidon. Pour eux, c'est pas bidon.
C'est pas bidon.
Oui. Ah, voilà. D'accord. Oui, t'as raison, c'est une excuse.
Bien sûr, après, pour les choses qui sont importantes, c'est important, c'est comme, tu comprends, une Ferrari, je parle de Ferrari tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a si elle est noire au lieu d'être rouge? Pas grave, qu'est-ce qu'il y a?
J'ai choisi d'autres couleurs, on aurait compris, mais...
Ouais, bon.
Porsche noir, c'est ça?
Je sais pas,
je connais pas. C'est lui, notre connaisseur. Notre conseiller. Nos conseillers, voilà. Si un jour tu vas acheter une Ferrari.
Ah, si je connais. Non, je suis pas encore cette prétention. Pourquoi ça doit être accessible. Il y a certains modèles qui peuvent être accessibles, non?
C'est comme on explique dans le Tania. Que...
Deux ans, oui.
Ah, c'est le premier modèle?
Oui. Bon, on expliquera dans la lettre suivante. La lettre numéro 11 qu'on étudiera à Bezrat Hashem dans quelques semaines.
Elle est dedans, moi. Ah ouais. Il faut que je dors dedans. Pour...
Dans quelques semaines, on étudiera qu'il y a une lettre qu'on considérera une lettre très compliquée de Admour Hazaken. Pas compliquée, mais une lettre dans laquelle il demande des choses qui sont a priori pas faisables quoi par le commun des mortels. Et on posera la question, on dit, mais si c'est pas faisable par le commun des mortels, pourquoi il nous en parle? On répondra, on dira que même si on peut pas le faire, au moins il faut savoir que c'est comme ça que ça doit être. Comme la Ferrari, je comprends. Oui. Même si tu l'as pas, tu dois savoir que... Bon, je referme la parenthèse.
Oui.
Donc, dans cette lettre, ce qu'on va essayer d'expliquer, donc je reprends le thème, c'est que c'est assez problématique, c'est une question qui revient très souvent. C'est vrai, la question est juste. Puisque Kadosh Baruch Hu, la Torah, c'est tellement profond, comment ça se fait qu'on s'arrête sur les détails comme ça? Pourquoi c'est tellement important les détails? Pourquoi c'est tellement important la structure? D'avoir une structure qui est carrée et qui bouge pas. Donc ce qu'on va expliquer, c'est que Béhémet, en vérité, sur certaines choses, la Torah nous laisse passer au-delà de la structure. D'accord? C'est la notion du hidour. On avait fait une fois un cours sur ça. C'est la notion du hidour. Par exemple, la Torah te dit, pour que les tefilines soient cachères, il y a une mesure, ça peut être c'est tout petit. Alors, celui qui veut faire mieux que ça, alors il peut aller plus loin que ça. Mais pourquoi tu veux aller plus loin que ça? Si la Torah t'a donné une mesure, t'a donné un quota, ça y est, c'est le quota. Donc c'est ce qu'on va essayer de développer dans le cours d'aujourd'hui. À partir de quel moment on va dire que je ne dépasse pas le quota, que je suis dans le quota, quand je peux dépasser sans aller à l'encontre de la Torah? Et pourquoi la Torah, surtout la question qu'on va se poser au début, c'est pourquoi la Torah a mis des quotas? Pourquoi est ce système-là? Pourquoi c'est pas plus ouvert, plus open? Pour une personne, tu l'expliques, par exemple, on va prendre le Shabbat. C'est quoi le concept du Shabbat? Ne pas travailler, se reposer. Donc après, imaginez une situation comme ça, quand tu dis à chacun de ne pas travailler, et qu'après chacun, il adapte ça comme il le sent. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Théoriquement, il n'y a pas de problème dans ça. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi. Alors, donc c'est la lettre 10, page 228. Acharet Rishat Shlomam Shalom Bechaim. Donc rappelez-vous, c'est une lettre, donc il y a des formules de politesse dans une lettre. Donc il dit Acharet Rishat Shalom Bechaim. il passe d'abord le bonjour au chassidim. C'est une lettre qu'il envoie au chassidim, donc il leur passe le bonjour comme dans une lettre. Petar Tvaray, Yair, Ozen Shomaat. C'est le même. Quelle page tu as?
228.
Là. Là. C'est là.
Ah, d'accord.
Adash, c'est les initiales de Hared Richard Shlomam.
D'accord.
Alors, Petar Tvaray, Yair, Ozen Shomaat, Tochachat, Vechaim. Donc je vais commencer d'abord par faire une remarque. Asher Ochiach Hashem Chaim El Denevio. Je vais reprendre une remarque qui est faite par le prophète Jérémie. Qu'est-ce qu'il dit le prophète Jérémie? Il dit Chas de Hashem Kilo Tamnu. Traduction: Chas de Hashem, c'est le chesed de Hashem, Kilo Tamnu, que nous n'avons pas péri. D'accord? Il dit Va avele lomar Kilo Tamu. Kemo shanu omrim Kilo Tamu Chasadecha. Il dit, en vérité, il y a un problème ici, il y a un problème grammatical. On expliquera plus tard pourquoi c'est un problème grammatical. Pourquoi tu dis, c'est le chesed de Dieu qui l'ôte tamnou, que nous ne sommes pas exterminés? C'est pas comme ça que tu aurais dû dire. Tu aurais dû dire que
nous avons pas.
C'est le chesed de Dieu, que son chesed ne s'est pas exterminé, ne s'est pas arrêté, que son chesed est toujours là. Pourquoi tu veux parler de nous qui allons être exterminés? Pourquoi tu fais passer ce message-là? Vous voyez la question? Ça veut dire comme ça.
Le centre, c'est pas, oui.
Quel est le sens de ce que veut dire le prophète Jérémie? Il veut rappeler au Ham Israël le sens que sans le chesed de Dieu, on ne serait pas là. Alors dans ce cas-là, la bonne phrase à dire, c'est « Heureusement que le chesed de Dieu ne s'est pas arrêté, grâce à ça, grâce à ça, on est là. » Mais pourquoi il a besoin de parler mal et de dire « Grâce à Dieu, nous n'avons pas péri ?» Il y a un problème. Pourquoi être négatif comme ça? Alors regardez ce qu'il va expliquer, c'est très intéressant. « Yuvan alpi mashekatu vizor akadosh » Vérité, même si on n'a pas très bien compris la question, c'est pas grave.
Le but, quel endroit il a dit ça, le prophète Jérémie?
Prophète Jérémie, dans Yirmiya.
D'accord.
Il voulait remontrer le peuple juif. Viuvan alpi mashekatu bezor akadash. On va comprendre ça selon ce qui est écrit dans le Zohar. Le Zohar, il dit la chose suivante. Il dit, itresed veitresed. Il dit, en vérité, quand le prophète Jérémie remercie Dieu, il remercie le chesed de Dieu. En vérité, pour comprendre ce que le prophète Jérémie veut dire, il faut d'abord comprendre qu'il y a deux catégories de chesed de Dieu. Deux catégories de bonté. En vérité, donc on va les décortiquer les deux. Et ce qu'on va expliquer, c'est que le prophète Jérémie, il est en train de remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné un chesed de deuxième catégorie, qui est le top. On va expliquer tout de suite les différences. Donc on va expliquer deux catégories de chesed. En expliquant les deux catégories de chesed, on expliquera les deux catégories de mitzvot. Et en expliquant les deux catégories de mitzvot, on reviendra à la tzedaka et on expliquera dans quel cas on peut dépasser, dans quel cas on ne dépasse pas. Vous suivez? Donc le but de notre cours, sur tout le long de la lettre 10, ça va être à chaque fois de développer les deux catégories. Et on va expliquer au cours de cette lettre qu'en vérité, de la même manière, puisqu'il y a toujours deux catégories, donc on a dit il y a deux catégories de chesed, deux catégories de mitzvot, deux catégories de tzedaka, et il y aura aussi deux catégories de juifs. D'accord? Il y aura les tzadikim et ceux qui ne le sont pas. Donc, et à chaque fois, on expliquera au cours de la lettre qu'il y aura toujours une symbiose, qu'il y aura ceux qui seront du côté droit, ceux qui seront du côté gauche. Ceux qui seront du côté droit, ils auront le chesed de catégorie 1, ils auront les mitzvot de catégorie 1, ils seront tous du même côté. Ceux qui seront de l'autre côté, automatiquement, leurs mitzvot seront différentes, leur chesed sera différent, leur tzedaka sera différente, tout sera différent. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans cette lettre. Très important, parce que grâce à ça, il va nous permettre de comprendre qu'en vérité, on n'accomplit pas tous les mitzvot de la même manière. Et qu'un tzaddik n'accomplit pas les mitzvahs de la même manière que quelqu'un du peuple. Très important ce qu'il a expliqué ici. Ça va nous permettre de voir beaucoup plus clair. Donc il dit comme ça. I tresed ve i tresed. Il y a deux catégories de tresed. Ça c'est le mot, je reprends dans le mot du Zohar. I tresed olam ve i tresed ila. Il y a le chesed qui est appelé le chesed du monde, le chesed de ce monde. Ça veut dire que c'est un chesed qui est, on va dire, classique. Ve i tresed ila a. Il y a le chesed suprême. Donc là déjà, vous voyez, on a déjà nos deux catégories. De droite, de gauche. On a la première catégorie, c'est un chesed classique. Chesed olam, le chesed du monde, le chesed classique. Ça veut dire, par exemple, le fait que Dieu fait tourner le monde et le fait que la nature tourne, c'est un chesed classique. De l'autre côté, on a un chesed ilaha, on a un chesed suprême. Dehu raf chesed. Par exemple, dans la tefila du matin, ça vous dit quelque chose ce mot rafresed? C'est quoi rafresed? D'accord, rafresed. T'es avec nous, Serge? Alors, rafresed. Chesed en hébreu, ça veut dire quoi? Chesed en hébreu.
La bonté.
Rafresed, Dan, ça veut dire quoi? Beaucoup de bonté. Mais par définition, si tu dis qu'il est bon, c'est beaucoup de bonté, ça veut rien dire. C'est presque un pléonasme. Mais il te dit non, c'est pas un pléonasme, c'est pas une répétition. Parce que tu as la bonté classique et tu as beaucoup de bonté, c'est-à-dire c'est une autre catégorie, c'est autre chose, comme on expliquera. Qu'est-ce que le Zohar te dit? Il faut expliquer ce que ça veut dire. Parce que là, apparemment, le Zohar, il veut. Donc je reviens. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'a dit le prophète Jérémie? Le prophète Jérémie a dit: grâce à Dieu, nous avons eu un grand chesed et c'est grâce à ça qu'on est toujours là. C'est quoi un grand chesed? Un grand chesed, c'est quoi une grande bonté? Si c'est une bonté, c'est déjà une bonté. On va expliquer qu'en vérité, il y a deux catégories de chesed. Et qu'en vérité, le prophète Jérémie veut expliquer au peuple que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné plus que ce qu'il nous donne d'habitude. Donc on est passé de l'autre côté. Donc maintenant, on va essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans les deux côtés. Pour expliquer ça, on va revenir depuis le début sur la Torah. Vous êtes prêts?
Mm-hmm.
Alors, on y va. Kine Modazot. Donc je suis à la ligne qui commence par Ve'it. Qui n'est modad, car c'est connu. A Torah, Nikret Oz. La Torah est appelée la puissance. D'accord? Pourquoi la Torah est appelée puissance? Comme c'est écrit Adonai Oz la Moïten, Adonai Evarech et Amo Vachalom. En traduction, de quoi on parle? On dit Dieu va donner la puissance à son peuple. La Gemara explique, elle dit c'est quoi la puissance? C'est la Torah. Pourquoi la Torah est comparée à la puissance? Comment ça se fait? D'accord, chez où la chaîne Gvoura. Donc déjà, est-ce que vous remarquez tout de suite que le terme puissance est un terme de rigueur? Oui, en tout cas, on dit rose en hébreu. C'est un terme, c'est pas la bonté. Quand on dit la puissance, ça veut dire que ça montre la rigueur, ça montre une force.
Déjà, même dans l'expression
rose. Rose, d'accord. D'ailleurs, dans l'armée, il y a les deux étoiles les plus grandes, c'est, je sais plus c'est laquelle en première, mais une c'est Itour à Oz et l'autre c'est Itour à Gvoura. Une, c'est le couronnement de la rose, donc de la puissance. Et au-dessus, je crois, c'est Itour à Gvoura, celui aussi de la force. Mais les deux sont l'un juste à côté de l'autre, dans l'armée.
Des médailles.
Des médailles qu'on donne.
De bravoure.
De bravoure, etc. D'accord. Quand tu as, par exemple, quand il y a des combats, qu'il y a des soldats, voilà, des actes de bravoure, il y a des degrés. Donc, la Torah nous dit que. La Torah est comparée à Oz, à la rigueur. Pourquoi? Comme Hashem Rabotenu Zuchanan Livracha, comme les Chachamim ont dit, Taryag, les 613 mitzvot, Ne'emru, le Moshe, Misinaï, Mipi, A, Gvura. Encore une autre référence. On voit qu'on nous dit que la Torah a été donnée par la rigueur. Et alors? Kedirtiv, comme c'est écrit, Mimino, Esh, Datlamo, Pirusho, Sha Torah, Mekora, Veshorcha, Irak, Razdasha, Memukhini, Mesham Yamin. Autre référence encore, on dit que la Torah est comparée à du feu. Il y a le feu et il y a l'eau. Quelle est la différence entre le feu et l'eau? D'accord? C'est que, sont opposés, l'eau, ça représente la douceur, et le feu, ça représente quoi? C'est pas le mal. La puissance. La puissance. D'accord? L'eau peut être aussi puissante. Le feu peut être doux aussi. Il n'y a pas de contradiction. Mais en général, le symbole du feu, c'est quoi? C'est la puissance. Donc on voit que la Torah est comparée au feu, la Torah est comparée à la puissance. La Torah est comparée de manière générale à la rigueur. Pourquoi elle est comparée à la rigueur? Il explique ici. C'est là qu'on va venir à la question que j'ai posée au début du cours. Rappelez-vous la question que j'ai posée au début du cours. Comment ça se fait que dans la Torah, il y a tellement de détails, de structures? Très important ce qu'il explique ici.
Elle est comparée au feu, là, tu vois, ou elle est comparée à l'eau, plutôt, la Torah.
La Torah est comparée à l'eau, d'accord, c'est vrai. Ce qu'il va expliquer ici. La Torah est comparée à l'eau seulement dans le fait que, de la même manière que l'eau vient d'en haut et elle arrive en bas, la Torah aussi vient d'en haut et elle arrive en bas. D'accord. Mais en vérité, la Torah est comparée, c'est écrit clairement, Mimino Esh Det Lamo. Dans la Parasha Azin, on dit que, Kadosh Baruch Hu, la Torah, c'est comme du feu. D'accord, ça veut dire qu'il y a un aspect de rigueur. Pourquoi la rigueur? Il va expliquer. Pardon. Sha Torah, Mekora Veshorcha, Urak, Chazde, Hachem, vous avez dans les mots? Mm-hmm. Pirouche, tu as Serge?
Non, mais je
vais te donner. Mm-hmm. Voilà, on va reprendre la ligne qui commence par Ukedirtiv. Ukedirtiv, là, comme c'est écrit,
Mimino,
Eshdat, Lamo. Que de la main droite d'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah qui est comparée au Esh. C'est quoi Esh en hébreu? C'est le feu. Donc c'est, le feu, on a dit, c'est symbole de rigueur. Pirouche, ça veut dire. C'est clair qu'en vérité, chez la Torah, Mekora, Veshorcha, Urakras, Dehachem. Comment tu peux dire que la Torah a été donnée par la main droite de Dieu et que c'est le feu? Le droite, en général, représente la bonté. Alors comment la droite représente le feu? C'est pas logique, c'est le gauche. On aurait dû dire que Dieu a donné avec la main gauche. Explique-moi, Télé, c'est très simple. Chez la Torah, Mekora, Veshorcha, Urakras, Dehachem, Emochoni, Mesham, Yamin. En vérité, la Torah, c'est évident qu'elle est comparée, elle vient, en vérité, c'est que du chesed. C'est-à-dire qu'en vérité, dans la Torah, Kadosh Baruch Hu veut notre bien et que notre bien. Donc c'est du chesed, Dieu, il donne. Daïnou, ça veut dire, Amshachad, Prinat, Elokutu, Idbarer, Vahara, Meor, Ensav, Aruchu, El, Olamot, Lenim, Tartonim. Qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, c'est Dieu qui se dévoile, Dieu qui éclaire l'humanité, Aliede, Adam, Amshichahor, Alatmo. Qui éclaire l'humanité au travers l'homme qui fera les mitzvot. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu veut envoyer une lumière dans le monde.
L'irradie.
D'accord? Par qui il va envoyer cette lumière? Par l'homme. Quand l'homme va faire les mitzvot, l'homme va devenir un satellite qui va recevoir cette lumière et qui va l'envoyer au monde entier. Donc c'est du chesed, il n'y a pas plus grand chesed que ça. Mais, c'est là le problème. Pirouche, ça veut dire, Ramar kelim ulvushim la haram eur ensava ucha mulvashba em orze yushab echoluzak kanoda. Voilà, rak. Je suis allé un peu vite parce que je vais arriver à la suite. Rak, seulement. Rak, c'est la ligne qui commence par. C'est là qu'on va rentrer dans les détails. Alors, on va. Juste après la parenthèse. Rak.
Oui.
Voilà, rak, ici.
D'accord.
Je vais aller un peu vite parce que je vais arriver ici. Rak, seulement. C'est évident qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, il veut que notre bien. La Torah, c'est du chesed. Akadosh Baruch Hu veut que notre bien, rien que notre bien, en soi. D'accord? Mais, quand même, bien qu'Akadosh Baruch Hu veut notre bien...
Tu as reçu le cours par satellite ou pas? Non. Non, c'est...
Est-ce qu'il y a par satellite?
Non, je dis, peut-être que je vais arriver avec les écouteurs, j'ai peut-être que tu arrives à lui transmettre...
En live.
En live, c'est ça. Peut-être on va trouver un moyen. Et un numéro d'appel, on peut. En deux conférences.
Ouais, ça existe, hein, ça se fait beaucoup maintenant. Alors. Donc, grag seulement. Sham shachazo, nitlapsha trila, bemidat gvorato shalakadosh baruchu, amechune beshem esh. Seulement, il te dit comme ça. Donc, je reprends. On te dit que
228.
On te dit que Kadosh baruchu, il a donné la Torah. Qu'est-ce qu'on a dit? Avec la main droite, il a donné du feu. La Torah est comparée à du feu qui est donné avec la main droite. Donc on a dit, a priori, il y a une contradiction. Parce que la main droite, ça représente quoi? La bonté. Avec la main droite, c'est la bonté, la main gauche, c'est la rigueur. Donc si tu me dis que c'est avec la main droite, c'est pas du feu, c'est de l'eau. Je dis non. Parce qu'en vérité, à la base, la Torah, c'est que du chesed. Akadosh Baruch Hu veut que notre bien. Seulement quoi? Comme Akadosh Baruch Hu, il sait que s'il nous donne la Torah telle qu'elle, sans la mettre dans une structure, on risque de passer à côté, de pas comprendre. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa structure, il a décidé de mettre du hesh, de mettre de la rigueur. Mais en vérité, le but de la rigueur, c'est quoi? C'est uniquement pour qu'on comprenne bien le chesed d'Akadosh Baruch Hu. On avait donné une fois un cours sur ça. On avait expliqué, par exemple, imaginez-vous, un père, on avait expliqué une fois un cours pour expliquer comment des fois la vraie bonté va s'exprimer par la rigueur. Imaginez, par exemple, j'ai envie de donner un cadeau à mon fils. Je vais lui donner un cadeau, je vais lui donner de l'argent. J'ai de quoi lui donner, je peux lui donner. Ce que je veux lui donner, je peux lui donner. Mais je sais que si je vais lui donner comme ça, donc c'est du chesed, lui donner de l'argent, c'est du chesed, c'est la bonté. Oui. Si je vais lui donner comme ça, il n'appréciera pas. Ça risque de se retourner contre lui. Alors qu'est-ce que je vais faire? Gvura, je vais mettre ça dans une structure. Par exemple, je vais lui dire, si tu auras des bonnes notes, si tu te comporteras bien à l'école, je vais mettre ça dans une structure, et je vais me tenir à cette structure. Une structure rigoureuse. Je veux dire, attention, pour avoir le cadeau, tu dois faire exactement ça. Et si tu dois dépasser, par exemple, tu dois avoir plus que, je sais pas, on a le test combien, d'accord? 14 de moyenne. Si t'as pas de 14 de moyenne, tu auras pas. Et je vais m'y tenir. Alors, ça peut paraître rigoureux. Pourquoi je m'y tiens à une structure? Il va t'expliquer, il te dit non. En vérité, le fait de se tenir à une structure, ça peut être une preuve d'amour. Que comme je sais que la personne risque de mal apprécier l'amour que je vais lui donner, je vais devoir mettre cet amour dans une structure. Mais le fait de l'avoir bloqué dans une structure, c'est une preuve en vérité que je l'aime beaucoup, cette personne-là. Il va t'expliquer, il va te dire, c'est exactement la même chose qui se passe par rapport à la Torah. En vérité, Akadosh Baruch Hu, quand il veut nous donner la Torah, c'est vrai que Béhémeth, Akadosh Baruch Hu, à la base, dans la Torah, il voulait pas nous limiter avec des détails comme ça. Je crois qu'Akadosh Baruch Hu voulait nous limiter avec des détails. C'était pas le but d'Akadosh Baruch Hu. Le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est de nous faire passer des messages. des messages, des concepts, une lumière. Seulement quoi ? Akadosh Baruch Hu, il sait que s'il nous fait passer les messages comme ça, il nous laisse, on fait ce qu'on veut, il nous laisse open, on va devenir des libéraux. Parce qu'après, si tu te permets de réfléchir, d'adapter la Torah comme tu veux, c'est la catastrophe. Donc Akadosh Baruch Hu, il te dit, pour ton bien, il faut mettre des barrières.
J'ai mis des détails.
Ça veut dire qu'en vérité, les détails, c'était pas ça la Torah. La Torah, à la base, quand on te donne une mitzvah, il y a un sens général. Après, on développe. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a mis les détails ? Pourquoi il a mis de la rigueur ? C'est pour nous permettre de mieux apprécier le chesed. Sinon, on n'aura pas apprécié le chesed. On va donner des exemples tout de suite. Et vous allez voir comment on va comprendre. Une fois qu'on aura compris ça, après on pourra développer, rappelez-vous, les deux côtés. Côté droite, côté gauche. Les tzadikim, les non-tzadikim, les mitzvot classiques, les mitzvot non-classiques. On va tout expliquer. Donc, il te dit comme ça. Rak, seulement. Juste après la parenthèse. Shamshach hazo, nitlap shatrila de midat gvurato shel Hakadosh Baruch Hu. En vérité, la Torah, c'est une expression, on ne peut pas mieux du chesed de Hakadosh Baruch Hu. Dieu veut notre bien. C'est vrai que des fois, quand une personne va regarder le Shabbat, il va regarder les mitzvot, il va dire, mais c'est que des restrictions, on me bloque. En vérité, la Torah, Hakadosh Baruch Hu veut notre bien. D'accord? Plus que ça, tu ne peux pas trouver. C'est que Hakadosh Baruch Hu veut que notre bien. L'aspect restrictif, c'est seulement un détail de la Torah pour nous permettre de garder la structure et d'essayer de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait de nous. Mais en vérité, le but de la Torah, c'était pas les restrictions. Très important, ça, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens dehors qui pensent que le but de la religion, c'est de restreindre les gens. Vous pouvez poser la question, faites un sondage, vous verrez, il y a plein de gens qui pensent comme ça. Peut-être dans d'autres religions, c'est comme ça. Qui pensent que le but de la religion, c'est de mettre une structure pour restreindre les gens. Ce qui est un but, qui peut être un but, de restreindre les gens pour s'assurer qu'ils se comportent bien, qu'ils aient une structure, etc. Là, la Gemara Zaken t'apprend un grand chidouche. Tu dis, le but de la Torah, c'est pas de restreindre l'humanité. De te dire, fais ci, fais pas ça. C'est pas ça.
C'est pour l'hygiène.
Justement, non. Le but de la Kadosh, on va prendre, c'est une bonne question que tu poses. Par exemple, la mitzvah de la Kashrout, qu'est-ce que c'est à la base? C'est quoi le sens de la mitzvah de la Kashrout? La Kadosh Baruch Hu, il veut que ta neshama soit pure. Pour que ta neshama soit pure, comme il y a une symbiose entre le corps et l'âme, il faut que le corps soit aussi pur. Parce que la neshama influe sur le corps et le corps influe sur la neshama. Quand la neshama est sale, le corps est sale. Quand le corps est sale, la neshama est sale. D'accord ? Parce que les deux, ils deviennent un seul bloc. Ils deviennent imbriqués l'un dans l'autre. Ça, c'est le concept. C'est, si tu veux définir la kashrout en un mot, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'à la base, dans la kashrout, il y avait tous les détails qu'on a aujourd'hui ?
Non.
C'était pas ça le but. Le but n'est pas ça. Le but n'est pas de rentrer dans les détails qu'on a aujourd'hui. Ah, pourquoi on a tous ces détails ? C'est seulement pour nous permettre d'arriver à accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu comme il veut. Sinon, on n'aurait pas pu comprendre. Sinon, on serait parti n'importe comment. Ça veut dire qu'en vérité, la rigueur, c'est seulement une manière de nous permettre à recevoir le chesed d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le chesed d'Akadosh Baruch Hu ? Akadosh Baruch Hu, il veut que chacun de nous soit un vecteur pour transmettre la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Quand je fais une mitzvah, je deviens un satellite qui reçoit la lumière d'Akadosh Baruch Hu et qui l'irradie autour de moi. Ça, c'est le but d'une mitzvah. Pour rien d'autre. D'accord ? Seulement quoi ? Quand on fait les mitzvot, Akadosh Baruch Hu te dit, comme maintenant dans le monde ici-bas, on n'est pas conçu pour... On risque de faire des bêtises, alors Akadosh Baruch Hu veut nous donner des limites. Il dit, voilà, des barrières, attention, ça oui, ça tu peux pas. C'est pour ça que, par exemple, vous savez que quand Machiav viendra, beaucoup de choses qui sont interdites aujourd'hui seront permises. Beaucoup. La majorité des choses qui sont interdites aujourd'hui seront permises. Par exemple, le cochon. Toute la majorité des détails... D'accord ? Qu'est-ce que t'en sais ? C'est ce qu'a dit la Gemara. La Gemara a dit, on n'a pas le droit de dire, le cochon c'est pas bon. Il faut dire, le cochon c'est bon, et j'en veux, mais qu'est-ce que je peux faire ? Kadash Baruch Hu me l'a interdit. Parce que c'est une créature de Dieu.
C'est ça la volonté,
oui.
Et c'est bon, certainement.
Certainement.
Mais c'est pas les imbéciles ceux qui le mangent.
Non, il y a des bons jambons de Parme.
Ah oui, le Parme, oui. Mais quand on voit les cafards de mer, les gros...
Ça doit être très bon, probablement.
D'ailleurs, ils veulent le copier, tu vois. Ils le font.
On a expliqué ce matin, je rappelais, que dans le Tanya, dans le chapitre 4, il explique, il dit comment ça se fait qu'en hébreu, pour dire quelque chose qui est permis, on dit moutard.
Oui.
Ou bien kasher, et pour dire quelque chose d'interdit, comme on dit assour, d'accord, ou bien pasoul. On a expliqué comme ça, on a dit qu'en vérité, le terme moutard en hébreu, ça veut dire quoi ? ça veut dire délié. Délié. Le terme assour veut dire quoi? Emprisonné.
Enfermé.
Enfermé. Pareil, kasher en hébreu, ça veut dire quoi? Apte. Fasoul, ça veut dire quoi? Inapte. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Ce que je vais expliquer, c'est que qu'est-ce qui fait qu'une chose est kasher et l'autre chose n'est pas kasher? Qu'est-ce qui se passe quand je veux manger quelque chose? Quand je veux boire, par exemple, ce café, qu'est-ce qui va se passer? Je vais récupérer les étincelles de kdoucha qu'il y a dedans. Imaginez maintenant que ce café n'était pas kasher. Et que je vais prendre ce café, je vais faire 50 brachot dessus et après je vais le boire. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Pourquoi? Parce qu'il est assour, parce qu'il est emprisonné. Les étincelles de kdoucha, il y a des étincelles de kdoucha, mais elles sont emprisonnées. Donc je pourrais jamais les sortir. Alors que dans l'autre, dans le verre de café que je pouvais boire, les étincelles, elles étaient déliées. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas en prison. Elles sont là, mais elles sont déliées. Donc, si je fais la bonne bracha, je peux les faire décoller. Pareil pour kasher, fasoul, apte, inapte. D'accord? Donc c'est très important. Ça veut dire qu'en vérité, à la base, tout ce qu'il y a dans le monde est récupérable. Il n'y a rien dans le monde... Exactement. Il n'y a rien dans le monde que je ne peux pas me servir pour servir la Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que, par exemple, si le Shabbat, on peut travailler, je vous taquine un petit peu, eh bien, certainement qu'il y a les étincelles de Kedusha à récupérer dans le travail de Shabbat. Il y a de l'argent à récupérer Shabbat, non? Il y a des gens qui font de l'argent Shabbat.
Bien sûr.
Alors? Alors, les étincelles, alors? On te dit, les étincelles de Kedusha que tu peux récupérer Shabbat, elles ne sont pas pour toi. Elles sont bloquées. Elles sont emprisonnées. Tu ne peux pas les récupérer, celles-là. Mais ça veut dire qu'à la base, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Tout ça pour expliquer quoi? Pour expliquer qu'en vérité, à la base...
Il y a des choses quand même que tu peux pas manger. Je veux bien, mais...
Comme quoi?
Bon, je sais pas, moi, je vois ce qu'ils font les Chinois, les serpents, les rats, les machins, tu peux pas manger ça quand même.
Non, ça c'est autre chose.
D'accord. Je sais pas quel doucheur on pourra libérer
non,
de ça.
Non, ça, à la limite, non. À la limite, je veux bien comprendre qu'il y a une préparation qu'on t'impose avant de manger.
D'accord.
Mais comment expliquer le fait qu'il y a certains aliments qui sont interdits? Tu comprends? Tu comprends ma question? Comment expliquer que le fait qu'il y a certains aliments qui sont interdits, peu importe ce que tu fais dessus, tu peux faire 50 shrita et 50... Parfois, ça fera rien. Bien sûr, on va t'expliquer que ça a une influence sur la personne. Mais quand Moshé reviendra, ça sera permis. Pourquoi? Comment ça se fait? Voilà, on sait pourquoi. Parce qu'en vérité, le but de la Torah, c'est quoi? C'est un chesed. C'est de permettre aux gens de permettre aux gens de se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Ah, pourquoi maintenant la Torah a pris cette forme de restriction? C'est parce que grâce à ces restrictions, ça nous permet de rester focalisé sur le contexte de la Torah. Comme ce papa qui veut donner de l'argent à son fils, mais qui sait que s'il lui donne pas une structure, il lui dit voilà, tu auras des notes, tu auras ci, ça va partir en vrille, et en vérité, le bien qu'il va vouloir donner à son fils va se transformer en mal. Et venir pour rigater, il va faire n'importe quoi. Donc il a besoin de structurer ça. Donc la structure, dans ce cadre-là, la structure n'est pas une preuve de méchanceté, mais au contraire une preuve de gentillesse. Voilà pourquoi on nous dit que la Torah, elle a été donnée par quelle main d'Akadosh Baruch Hu? Par la main droite. Et pourtant, c'est écrit « Mimino esh datlamo ». À la main droite, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Du feu. Le feu, on a dit symbole de quoi? Le symbole de
la rigueur.
Pourquoi? Pourquoi la main droite et la rigueur? On a expliqué, parce que ça vient de la main droite, mais il y a de la rigueur. La rigueur, ce qui nous permet de rester concentrés. Maintenant, on va donner plusieurs exemples de rigueur qu'on a dans la Torah. Regardez. Vous allez comprendre maintenant pourquoi j'ai fait cette lettre maintenant, parce qu'en vérité, ce tableau, on l'a abordé, ça fait quelques semaines. C'est pour ça que j'avais sauté, parce que là, maintenant, vous allez comprendre aussi pourquoi. Dit Rak Sham Shachazo, je reprends après la parenthèse. Rak Sham Shachazo, Nitlapshat Trila Bemidat Gvorato Shel Akadosh Baruch Hu. Donc, cette bonté d'Akadosh Baruch Hu va devoir passer par une rigueur. Amechune Beshem Esh, qui est appelé avec le nom du Esh, c'est quoi Esh?
Le feu.
Shei Prinat Timtsum Or Vachayot Enushachot Vamantsav Baruch Hu. Pourquoi le feu? Le feu, c'est le symbole de, ça veut dire qu'on va devoir, restreindre un petit peu, on va devoir structurer la chose. Je donne un exemple. On a un problème très simple, on a un problème concret. C'est que les mitzvot, c'est quelque chose de très très fort, c'est une lumière très forte, mais on doit les accomplir avec des choses matérielles. Donc t'es obligé de structurer, sinon ça va partir en vrille. Ketitit, par exemple. Le titit. La Torah a structuré que c'est quoi un titit kasher? Comment on fait pour un titit kasher?
Un vêtement à quatre coins.
Un vêtement à quatre coins, d'accord. C'est un vêtement qui doit être...
En laine,
ou éventuellement en coton, d'accord, donc il y a certaines manières. Donc ça veut dire qu'on a donné, on a restreint.
On a défini
les contours de cette mitzvah. Maintenant, à la base, c'était quoi le concept des titites?
C'est souvenir des mitzvahs.
Souvenir d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Et de s'envelopper d'Akadosh Baruch Hu. Donc à la base, c'est ça le concept. Donc j'aurais pu faire un t-shirt, d'accord, imprimé, je pense à Dieu.
Voilà, ça marche. Ouais.
Ça aurait été le concept.
I love New York.
D'accord. I love God. Je veux like.
I love God. In God, God we trust. Là, ils l'ont mis sur chaque billet, comme ça.
Donc, ça aurait pu... D'accord.
Ah oui, c'est vrai.
Ça aurait pu être bon. Seulement quoi ? Seulement quoi ? Akadosh Baruch Hu, il sait que si tu rentres dans ces trucs-là, tu risques de complètement dévier. Donc, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu ? Il te dit, voilà, on va mettre des critères, une structure. D'accord. Après, on va expliquer pourquoi. Pourquoi la laine, pourquoi les quatre coins. Mais ça veut dire qu'à la base, tout ça, c'est les détails qui n'étaient pas inclus. Donne un autre exemple. Ou tfiline. Les tfilines. C'est quoi le but des tfilines ? C'est quoi le premier des tfilines ?
S'attacher à la chaîne.
Le but des tfilines, on met un tfiline à côté du cœur, un autre tfiline, enfin, on appelle ça une
tfiline. Qu'on doit attacher
à côté de la pensée. Pour rappeler quoi ? Pour rappeler le fait qu'il faut soumettre sa pensée et son cœur à Dieu. Pareil. Alors, si tu veux que je soumette mon cœur et ma pensée à Kadosh Baruch Hu, j'aurais pu mettre, je sais pas moi, ici j'aurais pu faire un tatouage ou un truc, j'écris « Je pense à Dieu ». Pareil, devant, j'aurais mis des lunettes avec une petite inscription dessus, « Je pense à Dieu ». Je sais pas ce que j'aurais pu inventer. Chacun aurait pu inventer ce qu'il veut.
Un tatouage.
Hein, c'est limite. Pour qui a dit que c'est interdit ?
C'est interdit.
J'aurais dit « Je veux avoir Dieu dans ma peau ».
Ouais, sauf que Dieu, il t'a prêté ce corps.
J'ai compris. Mais ça veut dire on peut aller très loin.
Il peut y avoir des contradictions comme
donc,
ça.
Donc c'est ça le problème, voilà. Le problème est là. Le problème est que on peut partir d'une bonne intention, mais si on te donne pas de structure, ça risque de partir dans tous les sens. Donc on a donné un deuxième exemple avec les tefillines. Troisième exemple. Les korbanot. Un korban. Alors pareil, un korban à la base. C'est quoi le concept d'un sacrifice ? C'est de sacrifier quelque chose à Dieu. Si la Torah te donne pas, un contour. Une personne va dire, par exemple, je brûle ma maison. Sacrifice à Dieu. Ou je brûle mon fils. Je préserve. Il y a des gens qui le... Non, mais il y a des gens qui le font. Bah oui. Il te dit, c'est quoi le concept du sacrifice ? C'est de donner quelque chose à Dieu. Alors, si on te donne pas les contours d'une mitzvah...
Il se donne don de soi.
Oui, il y en a même qui se jette au feu. Il dit, je fais un sacrifice à Dieu.
Pour trouver des...
Vous comprenez le problème qu'on a ? Là, je pense que le cas du sacrifice, ça explique bien... Oui. Hein. Le fait est que quand tu n'as pas de contour, quand tu n'as pas de structure, tu peux faire n'importe quoi.
Exact.
D'accord ? C'est-à-dire que quand il n'y a pas de structure, voilà, une personne, ça part d'une bonne intention. Il veut faire un sacrifice à Dieu. Ça part d'une bonne intention. Donc il va sacrifier, il va brûler sa maison. On a vu des gens qui ont brûlé leur maison. D'accord ? Bien, c'est vrai, tu vas me dire, c'est des fous. C'est un fou. Il va dire, voilà, je sacrifie ma maison à Dieu.
Non, c'est un fou parce que...
Il sacrifie sa femme à Dieu, il sacrifie...
Il a pas respecté le cœur.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu ? Comme il sait que ça risque de partir dans tous les sens, donc Kadosh Baruch Hu va te donner un cadre, une structure. Et après, toi, quand tu vas t'apprendre, une fois que, ça veut dire, au moins, on est sûr que quoi qu'il arrive, que tu aies compris ou que tu n'aies pas compris, ce que tu fais, c'est bien. Après, si tu arrives à comprendre, tant mieux. Si tu comprends pas, c'est pas grave. Mais au moins, on sait que ce que tu as fait, c'est bien. On sait que tu t'es pas trompé. Si on attendait de comprendre pour faire, entre-temps, on serait planté, on aurait fait des catastrophes. D'accord ? Ça veut dire, imaginer par exemple qu'on aurait permis toutes sortes de sacrifices. Alors les gens, ils auraient essayé toutes sortes de sacrifices pour à la fin comprendre qu'il fallait faire sur un animal. À Kadosh Baruch Hu, dès le départ, il te dit, écoute, un sacrifice, c'est un animal. Que tu comprennes ou que tu comprennes pas, c'est une autre question. Mais d'abord, on a mis une structure. Tzedaka. Et là, on arrive à la tzedaka. C'est quoi la tzedaka ? Qu'est-ce qu'on peut donner à la tzedaka ? Même dans ça, la Torah a besoin de mettre une structure. Quelle est la structure que la Torah te donne à propos de la tzedaka ?
10%.
D'accord. La Torah va te donner une structure.
Donc c'est d'abord quoi ?
Donc,
qu'est-ce qu'il fait ?
D'abord,
qui fait office de tzedaka ?
D'abord, qu'est-ce que je donne en tzedaka ?
À qui je donne ?
D'accord, oui.
Ah bah oui. Qu'est-ce que je donne en tzedaka ? Est-ce que je peux me donner à moi en tzedaka, par exemple ?
Du temps.
Est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux donner à la tzedaka ? Est-ce qu'il y a une limite ? Est-ce qu'il y a un quota ?
Ça peut être sympa.
Bah oui.
Ah, bénévole,
est-ce qu'il y a un quota ? Est-ce qu'il y a une limite ? La Torah, même sur ça, elle a donné des critères. Sauf que c'est là le problème. C'est là ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Qu'il y a certains critères qu'on n'est pas obligé de suivre. Ça, ça va être très important. Donc il dit. Là d'abord, on explique pourquoi il y avait besoin d'une structure. Après, on expliquera dans quel cas on peut passer au-delà de la structure. Vous me suivez ? Donc, je rappelle. Je vais revenir sur ce qu'on a depuis le début, comme ça on perd pas le fil. On a expliqué que le Zohar explique que Yitresed ve Yitresed. Il y a deux catégories de chesed, d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un chesed classique et un chesed de haut niveau. D'accord ? Pour expliquer ça, On a dit maintenant, on va passer à un autre sujet. On va passer à la Torah. La Torah est appelée Oz, la rigueur. Mais en vérité, on a expliqué que la Torah, c'est pas de la rigueur. La Torah, c'est de la bonté. Ah, pourquoi nous, ça nous paraît être rigoureux? Parce que la structure, le but de cette structure, c'est uniquement de bien accepter, de bien comprendre la bonté d'Akadosh Baruch Hu. On est d'accord? V'af mitzvot sh'en beruch niut ha'adam, kemo ira ve'ahava. Il te dit comme ça, tu dis, tu sais quoi? Même des mitzvot qui vont te paraître spirituels, comme craindre Dieu, aimer Dieu. Tu vas dire, ah, c'est spirituel ça. Et bien même ça, afal piken quand même, em bemida beprinat gvul umida velo beprinat ensof klal. Il te dit, tu sais quoi? Même les mitzvot spirituels comme l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu, même ces mitzvot-là ont leurs limites. La preuve, c'est quoi? C'est que si une personne aimait Akadosh Baruch Hu sans fin, on mourrait de cet amour. Vous connaissez l'histoire de Nadav et Avihu? Nadav et Avihu, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Ils avaient un tel amour d'Akadosh Baruch Hu qu'ils sont trop approchés. Ils sont trop approchés, ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Saint des Saints, alors que c'était pas le moment, ils sont morts. Vous connaissez l'histoire? D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? C'est parti d'une bonne intention. Ils aimaient Dieu. Ils aimaient tellement qu'ils n'arrivaient plus à calmer leur amour, à calmer leur soif. Ils ont dépassé les limites. D'accord? Ça veut dire que même dans une chose aussi forte que l'amour de Dieu, bien sûr.
Il y a des limites aussi.
Bien sûr.
On te dit toutes les règles qui régissent le temple.
Bien sûr.
Ils te disent, tu peux pas rentrer.
Il y a certains endroits où tu peux pas passer. Et eux, ils ont dépassé. Mais c'est parti d'une bonne intention. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est comme ça que Moshe Rabbeinu a consolé Aaron. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, moi je témoigne que c'était tes enfants, c'était les tzadikim plus grands que nous deux réunis. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Leur amour n'avait pas de limite. C'est-à-dire qu'on voit que même une chose comme l'amour d'Akadosh Baruch Hu, même ça doit être structuré, ça doit être cadré. Pareil pour la crainte. Même pour la crainte. Quand on parle de Irat Hashem, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, même ça doit être cadré. Craindre Dieu, c'est bien craindre Dieu. Mais si à cause de ça, après, tu vas tellement avoir la crainte qu'à cause de ça, tu n'arrives pas à être sociable, tu n'arrives pas à parler avec les gens, tu n'arrives pas à parler avec ta famille, la Torah te dit, t'es parti trop loin. Tu sais, il y a des fois des gens comme ça, qui rentrent dans une telle crainte, une telle peur, on peut même plus parler avec eux. Ils sont plus sociables. La Torah te dit, ah, t'es parti trop loin. Pourtant, c'est parti de mon intention. C'est la crainte de Dieu. C'est bien, mais tout ça doit être avec une structure. Qu'est-ce qu'il veut montrer ici? Que toutes les mitzvot dans la Torah, que ce soit des mitzvot physiques, comme les tzitzit, les tfilines, les sacrifices, la tzedaka, ou que ce soit même des mitzvot spirituels, chaque mitzvah doit avoir une structure, un cadre. Le cadre, ça représente quoi? La structure, ça représente quoi? Ça représente la gvoura qui est dans le chesed. Maintenant, on comprend. La gvoura, la rigueur, qui va nous permettre de bien comprendre le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est une rigueur qui est très positive. Dans les mots. Donc, v'af mitzvot sh'en. S'incline avant la fin de la page. V'af mitzvot sh'en baruchaniyut ha'adam. Même les mitzvot qui sont a priori spirituels. Kemo ira ve'ahava. Comme la mitzvot de craindre Dieu et d'aimer Dieu. Afal piken, quand même. Hen diprinat gvulumida. Elles seront forcément limitées. Et structurées. Et cadrées. Velo biprinat ensof klal. Ça pourra jamais être illimité, sans fin. Ki ahava rabba. L'Hachem, bliket gvulumida, en adam yachal le savala belibo veliyod kaim gvo afilo rega. Si une personne avait réellement l'amour à Kadosh Baruch Hu, l'amour illimité, il pouvait pas tenir ne serait-ce qu'un seul instant. Comme les enfants d'Adav Aviou. Dès qu'ils ont atteint l'amour illimité, ils ont explosé. Donc ça veut dire on est obligé de cadrer. Ma'amar rabotenu tichonam livracha, comme les chachamim nous disent, shebeshat, matan torah shatayit galut elokuto itbarech ve'oren savaruch uprinat itdibon vitgalut pach hanishmatam. On dit qu'il y a eu un moment aussi où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous et que l'amour d'Israël envers Akadosh Baruch Hu était très très fort, était illimité, quand on a reçu la Torah. Au moment où on a reçu la Torah pendant les 10 commandements, on dit qu'il y avait un amour qui est tellement fort que notre Neshama s'envolait. Et à chaque fois, Dieu devait nous la faire redescendre. Donc de là, on voit exactement que la Neshama a quitté leur corps et que Dieu devait faire redescendre la Neshama sur le corps. De là, on voit quoi? Que même des mitzvot comme l'amour et la crainte doivent être illimités. C'est-à-dire que tout doit être limité. Ça veut dire que chaque chose doit avoir ses limites. À consommer avec modération. Si c'est pas pas bien, c'est bien. Mais si c'est pas cadré, ça peut se retourner contre toi. Donc il dit ici, Veine, le fiche, à mitzvot, nitnula no ledit lepchou de midak vorbet itzuma ahara, lachen, rov à mitzvot, yesh lahem, shiur, metzumtsam. Qui dit, étant donné Non, on va donner encore des exemples. On va expliquer comment, puisque la Torah, puisque les mitzvot, pardon, nous ont été donnés avec une structure, avec un cadre, c'est pour ça que la majorité des mitzvot vont avoir un... On va donner encore des exemples dans lesquels il y a vraiment un cadre, mais très défini. Regardez, par exemple. Kémon, par exemple. Horaire à titit. Est-ce que vous savez quelle est la longueur minimale d'un titit? D'accord? Alors, c'est Yudbet Goudalim. La longueur du titit. Je parle la longueur.
Ah, du fil.
Du titit, du fil. D'accord? Yudbet Goudalim, 12 pouces.
C'est en centimètres?
D'accord? Ça, c'est un pouce. D'accord? 12 pouces. Donc, tu comptes. Alors, il y a une marque loquette. Il y en a qui disent que 12 pouces, c'est depuis là.
Ah oui.
D'accord? C'est pas beaucoup, 12 pouces, hein, ça arrive là à peu près.
Ah, okay,
pas ouais. Beaucoup. Ouais. Il y en a qui disent qu'on peut le démarrer depuis là. Aujourd'hui, on essaie de le prendre depuis là.
C'est quoi c'est
un... C'est pas le inch.
C'est le pouce, le pouce.
Non, non, ah, ça, tu vas aller dans le
c'est 2,35. C'est ça. Ça, c'est 1 centimètre de
la. C'est ça, à peu près. Voilà. C'est 2,50. La mesure du titite minimal.
2,50.
La mesure du titite minimal, c'est ça.
Oui.
D'accord.
T'as demandé une rallonge, je pense.
C'est à peu près 8. Entre 8 et 10.
8 et 10 centimètres.
Donc la Torah t'a donné une mesure. D'accord. Yudvet Goudalim. Pourquoi, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va changer à Dieu si mon titit il fait... C'est la question que vont poser les gens. Qu'est-ce que ça va lui changer à Dieu si non, mon titit il est fait 8 cm ou 7 cm? C'est la même chose. T'as dit non. Encore une fois, c'est le concept de la structure. Autre exemple. Il te dit, va à Tfilin.
Pardon, ceux qui te disent qu'est-ce que ça va changer, il y a quand même une explication pourquoi c'est 8 ou 12.
Non, pas forcément.
Et il y en a, je n'ai pas compris, il y a quand même.
Non, je veux dire, celui qui va te dire qu'est-ce que ça peut changer.
Oui.
Ils n'ont pas tort.
Non, ils n'ont pas tort. Dès lors que si il a été noté 8 ou 12, il y a des explications à ces 8.
Bien sûr, il y a des explications. Mais ce qu'il veut expliquer, c'est que. Si. Non, il y a des explications.
Là, oui, peut-être.
Mais à la base, c'était pas nécessaire. À la base, c'était pas nécessaire. Absolument.
Ok. Non, mais ça, je veux dire, tu ne te poses pas la question dès lors que tu as la foi.
Oui. Aussi. C'est vrai? C'est comme par exemple, on va reprendre l'exemple du père qui voulait donner de l'argent à son fils. Il voulait lui acheter un cadeau. Je sais pas, qu'est-ce que les parents achètent comme cadeau à leurs enfants aujourd'hui?
C'est un iPhone. Samsung, ouais. C'est quoi Samsung ça iPhone,
il voulait lui acheter un iPhone. Donc il savait qu'il allait lui acheter.
C'est Samsung, mais non.
À la base, je savais que j'allais lui acheter. Après, j'ai mis des critères. J'ai dit, voilà, si tu vas avoir une bonne note, je vais te le donner. Mais à la base, c'était pas la bonne note que je recherchais. Je voulais lui donner un cadeau. Parce que c'est mon fils, je l'aime. Seulement, comme je voulais son bien, donc j'ai cherché une structure. Mais c'est pas les notes que je cherchais. C'est-à-dire que la note en soi, c'est un détail. La note en soi, c'est pas ça ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il pousse bien. Mon fils pousse bien. D'accord? La note en soi, c'est pas un but. C'est la même chose avec les mitzvot. Donc il te dit, mais attention, il faut pas que vous compreniez le secours Chas v'Shalom, qu'il faut pas faire attention aux détails. Au contraire. Ce qu'il explique ici, c'est que c'est justement les détails qui nous permettent de garder la structure. Horaire raté ici, donc on a dit Yubel Goudali. Va être filine. Quelle est la mesure minimale? Des tefilines. Etzba'aim al etzba'aim. Deux doigts sur deux doigts. D'accord ?
C'est pour ça qu'il est carré.
Ça. Donc c'est pour ça que les tefilines doivent être merouba'ot d'afka. Les tefilines doivent être carrés d'afka. Alors encore une fois, si les tefilines ne sont pas...
C'est deux sur deux sur deux ?
Non. Carré, je parle dans ce sens-là.
D'accord.
Carré comme ça, merouba. Un carré.
À la hauteur,
mais la hauteur...
Non, la hauteur, c'est autre chose. La hauteur, c'est moins important. Concrètement, c'est un cube aujourd'hui. Mais le plus important, c'est la longueur, largeur. Longueur, largeur doivent être les mêmes. C'est-à-dire qu'ils mesurent ça avec des outils, d'accord?
C'est
des outils de précision. Donc encore une fois, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça va changer? Tu dis, parce que c'est la structure. Autre chose. Vers l'oulav. Qu'est-ce qu'on connaît sur le loulav? Shiuro, dalet tfachim. Le loulav, pour qu'il soit kasher, il doit faire combien? 4 tfachim. C'est quoi un tefar? Un tefar, c'est 8 cm. Donc 4 fois 8, ça fait combien? 32 cm. C'est la mesure d'un loulav.
En dessous, il n'est pas cachère.
D'accord? Si j'ai moins que 32 cm, c'est pas cachère. Ve'asuka, et une souka pour qu'elle soit cachère. Zain tfarim. D'accord? 7 tfarim. Donc 7 fois 8, ça fait combien?
56.
56 cm.
Ah, il faut être.
Ve'ashofar, et le chauffard. Un chauffard, c'est quoi le minimum pour qu'il soit cachère? Ve'asur? Tefar. 8 cm. Un chauffeur de 8 cm est cachère.
C'est un sifflet.
D'accord. Oui. Mais c'est très difficile. Vous savez que le
chauffeur d'arbitre, alors.
Non, mais c'est très difficile à sonner. Plus c'est petit, plus c'est difficile.
D'accord. Le son circule.
Les gens, quand ils voient des grands chauffards, ils pensent que c'est difficile à sonner, mais en vérité, c'est très facile à sonner un grand chauffard. Parce qu'avec le.
Il y a une portée.
Il y a une portée, donc ça part tout de suite. Alors qu'un petit chauffard, c'est très difficile.
Arriver à sortir le son, c'est terrible.
D'accord. Donc, on a des mesures partout. Va à Mikvé, le Mikvé, même CA. Quelle est la quantité pour un Mikvé? D'accord? 40 CA. 40 CA, c'est environ 280 litres. Vechen Bekorbanot, pareil les Korbanot, Yeshlem Shiur Metsumtsam Lizman. Les Korbanot ont une mesure. D'abord, qu'est-ce qu'ils ont comme mesure les Korbanot? D'abord, pour chaque sacrifice, on te dit exactement quel animal tu dois offrir. Est-ce que c'est un agneau? Est-ce que c'est un taureau? Est-ce que c'est un bœuf? Est-ce que c'est un mouton? On te donne des critères. On te donne l'âge que doit avoir l'animal. Et une fois que tu as offert le Korban, on va te donner le temps que tu as pour le manger. Des fois c'est un jour et demi, des fois c'est un jour, des fois c'est deux jours et demi, des fois c'est deux jours. Et si tu dépasses d'une seconde, c'est pas cachère.
Même si tu le mets au congélateur.
D'accord. Donc, Kemo par exemple, Kvasim Beneshana, Ve'elim Beneshtaim ou Farim. Par exemple, on sait que les agneaux vont avoir un an, pas plus que ça. Les béliers doivent avoir deux ans, etc. D'accord. Ça veut dire que chaque chose, il y a une limite. Maintenant, j'arrive à la tzedaka. Tout ça pour arriver à la tzedaka. Et donc, on retrouve la même chose dans la tzedaka. En fait, je vous expliquais, le but de cette lettre, c'est de la tzedaka. Admor HaZaken, là, il voulait ramasser de l'argent. Non, mais je vous dis clairement, il voulait ramasser des sous dans cette lettre. Et ce qu'on va expliquer ici, c'est qu'il va expliquer au Hassidim pourquoi, pour la tzedaka, il faut dépasser ses limites.
La lune des balles.
D'accord, mais est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que là, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de t'expliquer que dans la Torah, il y a des limites partout. Il va t'expliquer que même la tzedaka, il y a des limites. Et il va expliquer pourquoi, dans certains cas, il faut dépasser les limites. Mais avant d'expliquer pourquoi il faut dépasser les limites, il faut d'abord expliquer pourquoi il y a des limites.
Oui.
C'est ce qu'on a fait. Vechen, maintenant on va comprendre.
Excuse-moi, je dois partir.
Pas attendre un quart d'heure?
Non, bah, je vais prendre Lorraine à faire avec la finition.
D'accord, ok. Allez. Chazak. Pas grave, c'est bien. Vechen, pareil. Mais Korban, pardon. Vechen, pareil. Mais Maaseh Tzedaka.
T'es passé sur là.
Voilà. Chaline commence par Tzedaka. Youssef, tu as celle-là. Je suis là, un peu celle-là. Vechen, Maaseh Tzedaka. Ou Gmilut Chassadim, Mamono. De la même manière, quand on fait la Tzedaka et qu'on fait Gmilut Chassadim avec son argent. Bien que ça fait partie des piliers sur lesquels le monde tient, hein. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais comme c'est écrit que le monde se construit sur la base du Hesen, à Filouachi quand même, Yesh la Shior Katsu. La Tzedaka a a priori une mesure fixe. C'est quoi la mesure fixe? Chomesh, la mitzvah minamufra. La mitzvah au top, c'est de donner un cinquième de... Un cinquième de quoi, Youssef?
De ses rentrées.
De son patrimoine. Ah oui.
C'est 20%.
Donc c'est 20%. D'aller jusqu'à 20%. Oumas, donc attention, quand je dis ça veut dire des bénéfices. C'est-à-dire, par exemple, une personne... C'était pas 20% du chiffre d'affaires, c'est 20%.
Le patrimoine,
c'est
encore pire. Non, c'est-à-dire que quelqu'un, il a
un patrimoine, c'est bénéfice.
Quelqu'un, il a un appartement avec 5 chambres, il prend une chambre entière.
C'est ça.
Et il loge
c'est un patrimoine, c'est
ça.
Le patrimoine, c'est le bénéfice. Non, une fois que j'ai donné une fois, c'est fini. Le patrimoine, c'est le bénéfice. On est d'accord? C'est le bénéfice que j'ai. Donc, c'est-à-dire qu'une personne doit donner... Razak. Une personne doit donner... Donc, quelle est la mitzvah du top? C'est quoi? C'est de donner 20%. Une personne qui donne 20% de sa paye, c'est déjà extraordinaire. Ou maaser, le mida benonit. 10%, c'est celui qui est moyen. D'accord? Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On donne 10% et on essaie de le dépasser. Si on peut aller à 15%, c'est bien. Ça veut dire qu'a priori, même la tzedaka a une quantité. Donc, l'Admor HaZaken sait ici que les chassidim vont lui dire, bon, ben écoute, les 15%, on les a donnés. 20%, on les a donnés. On est déjà à 20% maintenant. Donc on s'arrête. On est d'accord? Ah ben oui, c'est la logique. Tu viens de m'expliquer dans cette lettre, pendant une page entière, que toute la Torah a des structures et des limites, et quand même les mitzvot comme aimer et craindre Akadosh Baruch Hu doivent avoir des limites, doivent avoir une structure, doivent avoir un cadre. Et quand même la tzedaka a un cadre, donc parfait. Le cadre de la tzedaka c'est quoi? C'est maximum 20%. Minimum, je l'ai dépassé depuis longtemps, je suis arrivé au maximum maintenant. Donc 20%, je m'arrête.
Ouais, mais si ça dépasse 1 million, est-ce que tu prends 75%?
Ça change pas. Hein. Pour la Torah, c'est 20%, 20%.
Il fait fausse route. Au-delà d'un million, il prend 60%.
Il n'y a pas de différence. C'est 20%, 20%. C'est là ce que va t'expliquer. C'est là ce que va t'expliquer l'Admor HaZaken. D'accord? Il te dit, Vezé Nikra Chesed Olam. Tu dis, en vérité, tout ce qu'on vient d'expliquer, ça marche seulement pour ceux qui sont dans le chesed de première catégorie, ceux qui sont comme les tzadikim. Ceux qui sont en mode normal, comme on va expliquer ce que je veux dire tout de suite. Vezenikra chesed olam. Pirouche, ça veut dire chesed el kolayom, amitlavesh bolamotelim tartim, l'aide tarouta iltata, im mitzvet et taka ve chesed, chosib nadam ze imze. D'accord. Donc il te dit, ça c'est du chesed classique. C'est ce qu'on appelle tout à l'heure le chesed du olam, le chesed du monde, le chesed normal, la kadosh baruch hu. Ou les fiches à olam ou prilat gvulumida, maharet et la rakia, tafkouchana. Alors, v'chen marakia la rakia, v'chit al feshnea v'alma, la chen nitan chiur umida, gankel umida tazdaka, v'chesed sheba torah, kemo lishar mitzvot à torah. Voilà où je vais l'arriver. Donc il dit, ça, tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est uniquement par rapport à l'aspect du chesed classique d'Akadosh Baruch Hu. Comme Akadosh Baruch Hu veut nous donner du chesed au monde, et que le monde est limité, parce qu'on dit que le monde, on dit que depuis la terre jusqu'au ciel, il y a le temps de marcher de 500 ans. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Alors, peu importe comment on comprend ça, mais en tout cas, ça veut dire qu'on nous donne une mesure, une limite. Donc c'est pour ça que les mitzvot qui vont être pour le monde, elles aussi vont avoir une limite. Mais il te dit, l'Admor Hazaka, il te dit, tout ce qu'on a expliqué, ça concerne qui ? Ça concerne une personne qui a toujours gardé les mitzvot comme il faut, et qui est toujours restée dans le cadre. Ça, il te dit, c'est bien beau. Tu peux me dire, oui, moi je garde la structure, la tzedaka, tu me dis 20%, 20%. Il te dit, mais est-ce que quand tu as fait une avéra, tu es resté dans la structure ?
Pourquoi structure de l'avéra ?
Bien sûr. L'avéra, c'est on t'a interdit quelque chose. Tu l'as fait quand même. Donc t'as quitté la structure. Vous êtes d'accord ou pas ? Vous avez vu comment il va nous attraper ou voilà ? Il va nous attraper grave. Il va nous...
Faire une avéra raisonnable.
Non. Une avéra par définition, c'est j'ai cassé la structure, j'ai dépassé la structure. Et tu dis, c'est bien beau de me dire tout ce que tu me racontes là. Tu me dis oui, c'est la structure, le monde est structuré, la Torah est structurée, les maisons structurées, dépasser 15%, 20%, d'accord, 10%, 15%, 20%, on dépasse pas. Tu dis oui, mais quand t'as fait la Vera, tu m'as sorti ton histoire de structure aussi. On t'a mis une limite, tu l'as dépassée. Ah pourquoi tout d'un coup, dès qu'il s'agit d'une mitzvah, tu me ressors ta limite.
Donc on est coincé.
Alors comment on va faire ?
On va plus faire d'Averot, comme ça on paiera
moins d'impôts. Ah, il te dit Béhémet comme ça. Il te dit que pour une personne qui est comme un tzadik, une personne qui est tzadik, Béhémet, ça veut dire que toute sa vie a été structurée. Il n'a jamais quitté la structure. Il a toujours été structuré sans faire aucune avéra. Une personne comme ça, quand il voudra donner la tzedaka, on lui interdira de donner plus que 20%. On lui dira, toi tu es structuré, et toi tu n'as pas le droit de quitter la structure. Mais une personne qui a fait d'avérot, et qui a déjà quitté la structure, donc, pour faire teshuva, il va devoir aussi quitter la structure dans le côté positif. C'est ça la logique. C'est bien beau de dire la structure, mais il te dit dans certaines mitzvot, comme ça veut dire qu'effectivement, une personne qui a jamais fauté, lui, il restera dans la structure. Et lui, on lui dira, ne bouge pas la structure, reste dans le monde structuré, c'est une mitzvah structurée dans le monde. Il te dit, ah, seulement, aïn ou dafka, les shomer à Torah, velo, sarmimen, ayaminusmo. Tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, que dans la Torah, il y a une structure. Et que quand on te dit que les tefilines, par exemple, c'est deux doigts sur deux doigts, et quand on te dit que le loulav, c'est une mesure, etc., et que a priori, il faut pas chercher à faire plus que ça. Il faut pas chercher à plus être plus royaliste que le roi. Hein. C'est pour une personne qui a toujours été dans les structures.
Oui, donc finalement, si je veux compenser ma lavera, je vais faire des gros tefilines. Je vais faire plus de.
Ça veut dire qu'un tzadik.
Juste sur la tzedaka.
Non, après, c'est compliqué parce qu'il faut que ce soit sur le crâne. Ça veut dire qu'une une personne qui est tzadik. D'accord. Une personne qui est tzadik, a priori. Pour lui, il doit rester, c'est-à-dire si on lui dit que la mitzvah c'est ça, il n'est pas obligé d'aller chercher plus loin. Parce que pour lui, c'est quand même de structurer, et comme il n'a jamais quitté la structure puisqu'il n'a jamais fait d'avéra, il n'a jamais quitté le cadre. Dans ce cas-là, lui on lui dit bravo, c'est bien. Mais il te dit, aval, mais, Michel vir alavader, celui qui a Dieu préserve, il s'est détourné, ne serait-ce qu'un petit peu, du chemin de la Torah, chaz v'shalom. Mais achar she'evad darko la tête migrote de Kodesh Elyon. Puisque cette personne-là, il a fait un manque dans Kodesh HaElyon. Parce que, qu'est-ce qu'on fait quand on dit une mitzvah ? On dit « Asher, Kideshanu, Mitzvotav ». Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'avec une mitzvah, on fait descendre la Kedusha. Donc quand je fais une Avera, qu'est-ce que je fais ? J'entrave la Kedusha, je fais une tâche dans la Kedusha. « Shegara Erko, Prinat Amshachato, Mashayachol Amshir Prinat Elokuto, Ve'ara Ta'or Me'antza Varuchu, Ilu Ayashomer Atorom Mekamei Kilchata, Are. » Donc il dit comme ça, il dit c'est vrai. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé une personne sur Terre, il lui a donné une structure. Et j'ai un quota. Par exemple, on sait que voilà, la personne va vivre 82 ans et 53 jours. Donc on sait qu'en 82 ans et 53 jours, voilà les mitzvot qu'il peut faire structurellement parlant. Le problème, c'est quoi? C'est que s'il a fait des averot, il a perdu du chemin. Du chemin qu'il ne pourra jamais rattraper. Puisque structurellement parlant, tu m'as dit qu'il n'a pas le droit de dépasser.
Mais il est limité aussi.
Mais il est limité. Alors comment on va faire?
C'est d'accord.
Tu dis la seule manière de réparer une avera, c'est quoi? A priori, c'est irréparable, puisque si tu restes dans la structure, même si je vais faire demain 10 fois la mitzvah, il y a des mitzvahs qu'on ne peut pas récupérer. Par exemple, une personne qui a manqué le schéma, qui a manqué des tefilines, qui a manqué de mettre les tefilines, même si demain il mettra 10 fois les tefilines, c'est fini, il a raté les tefilines la veille.
Est-ce que ça marcherait pour quelqu'un qui donnerait, il a tout à sa mort, il donne tout ce qu'il a, par
justement,
exemple, à la fondation?
Ce qui va t'expliquer ici, c'est une bonne question, ce qui va t'expliquer ici, ouais, c'est que justement,
comment on va compenser
la avérote? Parce que si tu veux, il y a un quota, il y a des points, c'est comme des points, c'est-à-dire que on va te dire, par exemple, voilà, cette personne-là, il va vivre 82 ans et 53 jours, donc il va devoir gagner 1 million de points, d'accord, 1 200 000 points. Maintenant, il a fait une avéra. Il a fait une avéra, avec cette avéra, il a perdu 200 points. Comment il les récupère, ces 200 points? Il a oublié de mettre les tefilines. Alors on va lui dire, écoute, normalement, tes tefilines, ils sont cachés même 2 sur 2. Mais si tu vas mettre 3 sur 3, tu gagnes 1 point par jour. C'est pas obligé selon la Torah. Mais quand tu as dépassé la structure, tu gagnes 1 point. C'est comme ça qu'on récupère.
C'est des bonus.
C'est des bonus. Des bonus qui nous permettent de récupérer ce qu'on a perdu en faisant une avéra. D'accord?
Ça veut dire qu'en vérité,
ce qui va être expliqué ici là-dedans, Razaken, effectivement, un tzaddik n'a pas besoin de quitter la structure. C'est-à-dire que quand vous entendez une personne un jour qui vous dit, moi je fais la loi, je dépasse pas la loi, tu lui dis, mais quand tu as fait une avéra, t'as dépassé la loi. Ça, je veux bien qu'un tzaddik me dise ça. Si un tzaddik me dit ça, je l'écoute. Je dis, oui, pour vous, vous avez raison. Mais moi, de toute façon, j'ai dépassé la structure parce que j'ai fait d'averot. Alors, dépasser pour dépasser, si un jour je dépasserai pour une mitzvah, laisse-moi tranquille. D'accord? C'est logique.
Donc il y a quelque chose que celui qui fait des averot pourra faire qu'un tzaddik ne peut pas faire.
Exactement. Voilà pourquoi il y a des choses que... Ça veut dire qu'un tzaddik qui veut donner la tzedaka plus que 20%... C'est vrai.
Qui c'est qui est tzaddik? Voilà,
mais on a du chemin à rattraper. Ça veut dire qu'une personne... Imaginez qu'on va reprendre l'exemple de la tzedaka. Akadosh Baruch Hu, il sait combien d'argent il va me donner jusqu'à la fin de ma vie. Donc Akadosh Baruch Hu, il me dit, je dois donner jusqu'à 20% de mon patrimoine. Imaginez que pendant 5 ans, j'ai pas donné de la tzedaka. Donc ces 20% là, je pourrais jamais le récupérer si je donne toujours 20% dans ma vie. Parce que les 20% de la veille, c'est fini. Et les 20% d'après étaient déjà prévus, on est d'accord?
Donc au bout de 5 ans, tu donnes
100%. Eh bien voilà, ce qui va t'expliquer, c'est que quand dans la suite, tu vas donner plus de tzedaka, tu vas récupérer le manque de ce que tu avais avant. Bien que structurellement parlant, tu n'étais pas obligé de le faire, et qu'a priori Dieu ne te l'a pas demandé, mais quand c'est pour récupérer ce qu'il y avait avant, Akadosh Baruch Hu le permet. Donc, tout ça pour expliquer quoi? Pour expliquer que normalement, on n'en rajoute pas dans les mitzvot, mais il y a certaines mitzvot dans lesquelles Akadosh Baruch Hu nous permet de nous dépasser pour rattraper des choses perdues.
Ou compenser.
Il y a d'autres dans lesquelles Akadosh Baruch Hu ne nous laisse pas.
Alors, pour revenir à ma question, c'est de son vivant uniquement?
C'est?
De son vivant. Donc, j'ai quelqu'un qui donne, il dit, bon, à mon héritage, je donne tout en legs ou machin.
Il y a des choses qu'on peut récupérer. Est-ce qu'on peut, par exemple, quelqu'un qui a oublié de faire mincha, qu'est-ce qu'on va lui dire?
Tu fais deux fois vite.
Voilà. Trois filles deux fois vite. Depuis quand on a vu qu'on fait deux fois vite? Tu vois le concept ici? C'est j'ai rajouté dans le vite pour compenser un mitra. Ouais. Mais par contre, si j'ai pas récupéré à vite, j'ai fait une fois vite, j'ai oublié. C'est trop tard. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut pas récupérer.
C'est-à-dire qu'il y a des limites dans le temps.
Il y a des limites dans le temps. Mais ce qui est expliqué là de Morozakaen, c'est que même dans ces limites qu'il y a, il y a certains endroits où on te permet de faire des écarts, de dépasser les limites qu'on t'a données, à certains moments donnés, pour te permettre de rattraper le temps perdu.
C'est que du rattrapage. En
fait. Que du rattrapage. C'est comme pour la tzedaka. Alors il va donner un exemple magnifique, il te dit, regarde. Et tu lui dis, c'est bien beau les gens qui te disent que pour la tzedaka, ils vont te dire, oui, on ne peut pas se dépasser, il y a une limite, la Torah nous a donné une limite, on ne peut pas se dépasser. Mais l'Admor HaZaken te dit, regarde, est-ce qu'une personne qui est malade, je préserve, il doit aller chez le docteur, est-ce qu'il va dire... je paye que jusqu'à 20% de mon patrimoine pour aller chez le docteur.
Il peut tout donner.
Il donne tout. Okay. Il va même se mettre à crédit pour aller payer un docteur. Il te dit, alors si tu vois la tzedaka maintenant comme la refoua de l'âme, on voit ça complètement différemment. Donc bien que la Gemara dit clairement que les Chachamim de Husha ont instauré qu'on n'a pas le droit de donner plus que 20%, ok, qu'ils ont instauré ça dans une personne qui se comporte bien. et qu'il donne la tzedaka dans un cadre normal, dans un cadre structuré, dans un... il reste dans le cadre. Mais une personne qui donne la tzedaka dans le cadre de tikkun de ses averot, dans ce cas-là, c'est pas chaud qu'on peut le laisser donner plus que 20%. D'accord ? Voilà ce que le Morazaka veut expliquer ici. Bon, la vérité, c'est que la suite de la lettre est très importante, mais on n'aura pas le temps de la finir jusqu'à la fin du cours. Donc j'ai envie de la faire tranquillement la semaine prochaine, à moins que vous voulez...
Tu peux parce qu'elle est longue encore.
Elle est longue encore. Ouais. Jusqu'à là. D'accord ? J'ai pas envie de la bâcler. Ouais, on a encore longue. Ok ? On va finir la semaine prochaine. En tout cas, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, Baruch HaShem, on a pu expliquer le concept pourquoi la Torah a été structurée et pourquoi dans certains cas la Torah nous permet de quitter la structure. C'est justement pour rattraper le temps perdu. Voilà, ça arrête là pour nous. Exact.